Est-ce que quelqu'un voudrait entendre Dieu lui parler? Alors vous savez, on peut demander à Dieu de lui parler si après on bouche nos oreilles. Hein? Mais si on est sincère dans notre demande, il y a quelque chose qui se produit. Alors je voudrais vous partager le témoignage d'un homme qui s'appelait Job. Et Job va nous parler de cette manière-là. Regardez, Job chapitre 37, à partir du verset 1. Mon cœur est tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Et il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages. Il les dissipe, il les disperse, étincelant. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il a ordonné sur la face de la terre habitée. Comme une verge dont il frappe sa terre ou comme un signe de son amour qu'il les fait apparaître. Quand en entendant Dieu parler, quand nous voyons la manière où Dieu nous parle, nous pouvons l'interpréter chacun d'une manière différente. Ça vous est déjà arrivé d'entendre quelque chose et de dire à votre voisin, il a dit quoi? Il a dit quoi? J'ai pas compris. Parce que parfois, il y a des choses qui nous échappent. Nos pensées sont prises. Et c'est bien quand la personne qui est à côté a suivi et il peut nous aider à rattraper un peu, non? Et là, Job est quelqu'un qui parle à Dieu parce qu'il se trouve dans une situation très difficile. Et se rend compte que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tous les éléments qui font partie de notre vie, de notre journée, répondent aux décisions et à la volonté de Dieu. Avez-vous une télécommande pour commander le temps? Imaginez si vous aviez une télécommande, vous voudriez quoi demain matin? Dites-moi. Moi, chez moi, ça serait bloqué soleil. Hein. Mais peut-être ceux qui ont un jardin, ils se disent quand même. Hein. Je suis sûr qu'il y a quelques-uns qui diraient, moi, de temps en temps, un peu de pluie. Hein. Comme ça, j'évite de devoir arroser moi-même le jardin. Et peut-être que d'autres, ils se diraient un tout petit peu de vent, ça fait du bien quand même. Hein, trop de chaleur, ce n'est pas bon. Mais vous imaginez si chacun d'entre nous, on avait la possibilité de changer le temps à notre gré. Et malgré l'évolution de la science, malgré le pouvoir que certains ont acquis avec le temps, par la richesse ou par la renommée, personne encore a cette télécommande. Le seul qui puisse décider du temps, c'est Dieu. Et combien de fois on a pu regarder nous-mêmes les prévisions du temps? Ça vous est arrivé de regarder les prévisions? Et vous dire, mince, demain, ah, ça serait bien s'il y avait un peu de soleil, on avait prévu quelque chose. Ou autrement se dire, ben demain, c'est beau temps. Moi, je me rappelle d'un moment où on était en Alsace. Et un après-midi, on est sorti avec les enfants pour aller se promener. Et normalement, la météo était super. Plein été. Rien pouvait nous dire qu'il y aurait eu un problème alors que la soirée se présentait super. Il y avait plein de personnes qui avaient allumé leur barbecue. Donc, je n'étais pas le seul à avoir regardé la météo. Et alors qu'on se promenait, d'un coup, le vent s'est levé, une tempête s'est levée, au point que cette tempête a été tellement forte qu'il a fait écrouler à Colmar. Il y avait un spectacle de prévu. Et ce jour-là, les gradins se sont écroulés et malheureusement, il y a eu des morts. Qui aurait pu se dire ce jour-là, quelle météo avait prévu un tel événement? Pourtant, si vous regardez, on nous donne la météo presque heure par heure. Hein? On nous dit à telle heure et nous, on attend. Hein? S'il se déplace de 2 minutes, on dit, allez, il s'est trompé encore une fois. Mais quand on sait qu'il fait beau temps, on ne sort pas avec le parapluie, non? Tu sors avec ton parapluie, toi, Georges? Non, hein? Il n'y a pas de parapluie dans le sud. N'est-ce pas? Mais il y a des choses qui dépassent notre entendement. Il y a des choses qui dépassent notre contrôle. Et ce texte nous dit, Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Waouh! Alors je me suis permis de chercher quelqu'un qui puisse témoigner des grandes choses que Dieu fait et qu'on ne comprend pas toujours. Et alors, je voudrais inviter à témoigner une personne, elle s'appelle Marie. Peut-être vous la connaissez. Et ce qu'elle nous témoigne, elle l'a écrit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Cette femme, beaucoup lui ont accordé des choses qu'elle n'a jamais dit. Ils lui ont peut-être même associé des positions qu'elle n'a jamais prises. Et là, par contre, c'est elle qui nous parle. Et regardez comment elle parle. Luc chapitre 1, à partir du verset 45. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront « Bienheureuse !» Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Ça, c'est les paroles de Marie qui parle de Dieu comme son sauveur, comme son Seigneur. Elle ne prend pas une place qui n'est pas la sienne. Mais elle s'émerveille de ce que Dieu va faire par quelqu'un de simple comme vous et moi. Et elle dira, qui pourrait comprendre? Et qui pourrait comprendre qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme puisse enfanter, si ce n'est pas un miracle de Dieu? Qui peut saisir une chose pareille? Ça nous dépasse. Qu'est-ce que Dieu ne pourrait pas faire? Mais Dieu fait ce qu'il veut, parce qu'autrement, il ne serait pas Dieu. Il serait quelqu'un comme vous et moi. On aimerait tous être équipés pour faire des miracles. Si vous pouviez faire des miracles, vous feriez quoi? Dites-moi. Ah, eh bien, tu mets au chômage beaucoup de monde. Et après, tu aurais tous les infirmiers, les médecins qui viendraient te voir et te disent, c'est bien ce que tu as fait. Et nous? Tu fais la multiplication des pains et des poissons. Très bien. Mais tu mets au chômage les boulangers, hein? Quoi qu'on fasse, même avec les meilleures prédispositions, on ferait des erreurs et on compliquerait les choses. Mais Dieu, quand fait quelque chose, sait très bien quoi faire et il sait très bien pourquoi il le fait. Jérémie chapitre 33, verset 3, il dit « Invoquez-moi ». Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses caché que tu ne connais pas. Alors ce soir, mettez de côté le fait de vouloir faire vous des miracles. Parce que je pense qu'on transformerait tellement notre monde qu'on ne s'y reconnaîtrait plus. Et chacun est prêt à refaire le monde. Regardez, quand on est autour d'une tasse de café, on refait le monde. Une, deux, voire même trois fois. Il y a quelque temps, j'étais dans un garage et j'attendais pour qu'on me répare une voiture. Et là, il y avait cinq, six messieurs qui discutaient. Ils prenaient leur café et discutaient. Ah, ils ont refait le monde. Ah, je peux vous assurer. Je me dis qu'ils avaient des bonnes idées. Mais après, je pense qu'on a tous nos limites. Hein ? On a tous... Et là, la parole de Dieu nous dit de nous adresser à celui qui n'a pas de limite. Invoquez-moi et je vous répondrai. C'est une invitation de Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait invoquer Dieu ? Il fait des choses qui sont impossibles aux hommes. Nous avons lu tout à l'heure, il dit, il charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il a ordonné sur la face de la terre habitée. Vous avez déjà fait ce jeu avec les enfants de regarder les nuages et de comprendre quelle forme ça ? Hein ? Est-ce que c'est le hasard ? Est-ce que Dieu nous parle aussi par là ? Alors, commencez pas à regarder les nuages et à marcher avec la tête en l'air parce que vous risquez d'avoir un problème. Déjà qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Et quand il y a des nuages, le Mistral, hein, il les fait partir. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'accepter de rester sensible à que Dieu puisse nous parler par tout ce qu'il veut. Que Dieu puisse nous parler quand il le veut. Et nous approcher de Dieu avec cette foi de dire, Seigneur, j'aimerais que tu parles à mon cœur. Vous avez entendu tout à l'heure le témoignage. Il a fait ça une fois, t'as dit. Hein ? Il a ouvert par hasard sa Bible et il tombe sur le texte. Personne n'a vu Dieu. Quelle était sa demande ? Je veux voir Dieu. Est-ce qu'il a eu une réponse ? Essayez à la maison ce soir de tomber vous comme ça sur le texte parce que vous avez décidé que vous voulez retrouver le texte. Vous n'allez pas y arriver. Hein ? Il va falloir trouver une concordance et trouver le texte et se dire « Ah voilà, maintenant je sais où c'est ». Mais à combien de reprises Dieu nous a parlé de manière différente. Et Job l'a expérimenté. J'aimerais vous parler d'un autre homme qui peut nous témoigner aussi de cette puissance de Dieu, de cette capacité de Dieu de faire ce qui est impossible aux hommes. C'est Jonas. Monsieur Jonas va faire une grande expérience. Je pense qu'il y a un peu de Jonas en nous tous. Jonas est un homme qui aime Dieu. Jonas est un homme qui a le privilège d'entendre Dieu lui parler. Mais Jonas fait la sourde oreille. Vous préférez que je m'arrête avant. Hein ? Parfois, nous aussi, on fait un peu la sourde oreille. Et Dieu lui dit, tu vas à Ninive. Et Jonas dit, non, moi, je vais de l'autre côté. Vous savez, comme quand on a le GPS qui nous dit, va à droite et nous, on prend à gauche. On pense savoir. Et après, on est obligé à faire demi-tour, n'est-ce pas ? Et Jonas va faire une expérience incroyable. Je vous invite à lire ce texte de Jonas, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. On m'a dit il y a quelque temps qu'il y a eu une sardine, une fois, qui a bloqué le port de... Alors imaginez... Quelqu'un qui a l'autorité d'appeler une baleine ou un grand poisson, parce qu'on ne sait pas si c'est une baleine ou un... peu importe, il faut le vivre le truc, non ? Se faire engloutir par un grand poisson. Dieu fait venir un grand poisson pour engloutir Jonas. On peut se dire, attends, ça peut arriver, hein ? Ça peut arriver de rencontrer un grand poisson. On continue. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Moi, je crois que juste la peur, après 30 secondes, il n'y a plus personne. Non ? Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Deuxième discussion. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Avez-vous déjà parlé à un poisson ? Avez-vous pu dire au poisson ce que vous vouliez qu'il fasse? Alors vous pouvez me dire, mais si vous avez dans un certain centre, ils sont préparés, ils sont formés, hein, ils font de la formation. En France, on est très fort, on fait de les formations pour tout, n'est-ce pas? Parfois, je vois même sur la route, trou en formation. On forme tout en France, tout. Mais on n'a pas réussi à former les poissons, à faire ce qu'on veut. Et là, Dieu dit aux poissons, tiens, Jonas a besoin d'apprendre une leçon. 3 jours, 3 nuits, jusqu'au moment où Jonas va prier, demander à Dieu de le secourir. Et Dieu va parler à nouveau aux poissons et le poisson va le vomir. Si vous rencontrez quelqu'un en sortant d'ici qui sent le poisson, peut-être vous allez vous dire, ah, toi, tu as bénéficié du fait que Dieu a parlé pour toi. Dieu a défendu ta cause. Il t'a sorti de ton problème. On peut sentir le poisson comme on peut sentir bien d'autres choses. On peut s'enfermer dans une situation qui fait que nous sommes comme Jonas, désespérés. Luc chapitre 1, verset 36 dit, car rien est impossible à Dieu. Verset 37, merci. Rien est impossible à Dieu. Alors, je voudrais vous dire que Dieu a encore un message pour vous ce soir. Le dernier verset de ce que nous avons lu, il nous disait, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, hein, le temps, le climat, la pluie, le vent, la tempête, les nuages. Certains y voient comme si la nature se déchaînait pour nous détruire. Et il dit, où ? Comme un signe de son amour qui les fait apparaître. Et si Dieu nous parlait par tous les éléments qui nous circondent, si Dieu nous parlait d'une manière de l'attirer notre attention, si Dieu voulait nous interpeller en disant, mais où est-ce que tu vas? Quelle direction tu es en train de prendre? Pourquoi tu n'apprends pas à être heureux de ce que je t'ai déjà donné? C'est difficile d'être heureux de ce qu'on a, hein? L'herbe du voisin est toujours plus verte. Hein ? N'est-ce pas ? Vous avez vu cette publicité de cet homme qui vient de sortir d'un concessionnaire avec une nouvelle voiture. Et il croise quelqu'un qui vient avec une autre voiture et là, il est fâché. Parce qu'en réalité, l'autre, elle est meilleure. Et il est plus content de ce qu'il a. On en fait une pub, mais bien souvent, c'est la réalité. On n'est plus content de ce qu'on a. Et on veut plus, et on cherche plus. Et une fois qu'on a obtenu ça, ben, il y aura toujours autre chose. Mais là, Dieu nous invite à regarder non pas au matérialisme, mais à comprendre que son message est un message d'amour. Dernier texte, 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 8. Le message de Dieu, c'est que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. On aurait pu prétendre quelque chose si c'était nous qui avions aimé Dieu avant que lui nous aime. Est-ce que vous aimez tout le monde ? Réfléchissez bien. Est-ce que vous aimez tout le monde ? Hein ? C'est difficile d'aimer tout le monde, hein ? Quelqu'un dira, il y en a un que j'aime plus. Il y en a un que j'aime moins. Mais aimer tout le monde. Il est question, c'est simple, d'aimer ceux qui nous ont rien mais rien fait. Hein ? On peut dire, j'aime tous ceux qui habitent dans tel pays, dans telle ville. J'aime beaucoup les gens qui habitent loin. Je t'aime quand t'es loin. Quand t'es proche, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai, il y a des relations, elles sont bien, de loin. Non ? Mais est-ce que nous aimons ceux qui ne nous aiment pas ? Est-ce que nous aimons ceux qui peut-être parlent de nous pas trop bien ? Est-ce que nous aimons ceux qui nous insultent ? Est-ce que nous aimons ceux qui peut-être même osent nous cracher dessus ? Est-ce qu'on aime ceux qui nous frappent ? Est-ce qu'on aime ceux qui nous jugent ? Est-ce qu'on aime ceux qui nous mettent à la croix ? Ceux qui nous accusent à tort ? Est-ce qu'on aime tout ça ? Et pourtant, vous savez, tous ces actes, nous les avons tous faits. Qui d'une manière ? Qui d'une autre ? Qui physiquement ? Qui verbalement ? Qui moralement ? Marc disait tout à l'heure, il n'avait pas de foi. Comment croire que Jésus était toujours vivant ? C'est terrible quand quelqu'un ne vous croit pas. Et pourtant, mais Jésus est là. Mais il a fallu qu'à un certain moment, les yeux de Marc s'ouvrent. Qu'il accepte aussi que Dieu puisse lui parler. Et si vous, ce soir, vous preniez le risque de dire à Dieu, parle-moi. Et si vous preniez le risque de dire à Dieu, permets que mes yeux puissent en réalité réaliser que tu es toujours vivant. Non pas en voyant un fantôme, hein. Non, non, c'est pas ça. Mais en sentant que Dieu prend soin de vous, comme il disait tout à l'heure Marc, il était prêt à passer, et d'un coup un camion. Mais quelque chose lui dit, arrête-toi. Alors quelqu'un dirait, ouais, mais c'est de la prémonition. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas, même pas imaginer. Celui qui prend soin de nous tous les jours nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Et ce soir, je voudrais vous dire que Dieu sait exactement ce que vous avez besoin. Votre question ? Je vais vous dire, ne le dites à personne. Laissez que Dieu vous réponde. Comme ça, vous ne pouvez pas dire, ah ben, il le savait. Hein ? Ne vous faites pas échapper ce que vous demandez à Dieu. Par contre, si Dieu vous parle, au moment où il va vous parler, ayez la franchise de dire, c'est vrai, Dieu parle encore. Marc disait tout à l'heure qu'il espérait voir une croix. Moi, j'avais lu l'histoire de Moïse, le buisson ardent. Je me suis dit, c'est bien ça, le buisson ardent. Hein ? Magnifique, un appel comme ça. Qui voudrait avoir un appel comme ça ? Tous ? Eh bien, ça n'a pas été comme ça. Parce que je ne m'appelle pas Moïse. Et même si je m'appelais Moïse, Dieu appelle de manière différente. Et le cœur de chacun est différent. L'expérience de chacun est différente. Pas seulement les besoins. On peut habiter dans la même maison et ne pas avoir les mêmes besoins. Moi, j'ai deux frères plus petits que moi. On ne se ressemble pas du tout. Vous dites, mais ce n'est pas tes frères. Ben, c'est comme ça. Le troisième, il est tout maigrelet. Il peut manger tout ce qu'il veut. Il ne prend pas un gramme. Les deux premiers, s'ils prennent une bouchée d'air, ils prennent 3 kilos. On est tous différents. Mais vous savez, Ce qui est important, c'est que Dieu nous aime avec toutes nos différences. Et peut-être que vous, vous avez du mal à vous aimer. Mais je voudrais vous dire que Dieu vous aime. La preuve, c'est qu'il a donné son Fils. Il a manifesté son amour pour vous. Je voudrais vous inviter à fermer les yeux. Et peut-être que ce soir, quelqu'un voudrait prendre ce risque, voudrait dire au Seigneur, « Seigneur, parle à mon cœur. Seigneur, j'aimerais bien avoir moi aussi cette expérience-là, vivre et changer. Seigneur, ne plus rester comme quelqu'un qui ne croit en rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. » Peut-être vous avez un besoin particulier ce soir sur votre cœur, votre famille, votre foyer, vos enfants. Demandez à Dieu. Faites confiance à Dieu. Alors vous allez peut-être vous dire, mais moi, je n'ai jamais parlé avec Dieu. Parlez avec Dieu comme vous pouvez parler avec un ami. Adressez-vous à lui avec confiance. Soyez patient. Approchez-vous de lui avec douceur et il utilisera, il vous montrera sa bonté, sa miséricorde. Seigneur, je voudrais te prier encore ce soir pour chacun de nous. Seigneur, toi, tu connais les questions et les questionnements de chacun, ainsi que les besoins. Tu connais aussi ceux qui ont besoin, Seigneur, ce soir, d'un secours immédiat. C'est comme si sur leur cœur, il y avait écrit « urgent ». La peine est grande. La crainte, Seigneur, est comme celle de Jonas qui se trouvait enfermé dans une situation difficile, peut-être même dans une forme, Seigneur, de réclusion du cœur, de l'âme. Peut-être quelqu'un, Seigneur, encore ce soir souffre dans une forme de dépression, de tristesse, de peine. Et comme Jonas a crié à toi, Seigneur, je veux te prier pour chacun de nous encore ce soir. Seigneur, entends la prière, entends, Seigneur, l'appel au secours. Et Seigneur, manifeste-toi au cœur de tous ceux qui voudront, Seigneur, entendre ta voix. Merci, Seigneur. Merci parce que ta parole nous engage, Seigneur, à faire cette expérience. Et Seigneur, toi, tu es le garant de ta parole. Et je sais que tu agiras parce que tu es fidèle et tu es bon. À toi, honneur et gloire. Amen.